Bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 4h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Vincent Dublange.
Et c'est le début d'Afrique Matin, une demi-heure largement consacrée au continent. On commence avec le journal L'Angola, annonce que la RDC et le M23 vont discuter directement à Luanda dans les prochains jours. Cela fait suite à une rencontre hier entre les présidents Tshisekedi et Lourenço. Et Kinshasa dit prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise. On va décrypter dans ce journal la visite officielle du Premier ministre indien à Maurice dans un contexte notamment de compétition avec la Chine. Les forces spéciales ougandaises sont-elles déployées à Djouba pour sécuriser la capitale du Soudan du Sud? C'est ce que dit Kampala et que réfutent les autorités locales. Et puis réélection attendue aujourd'hui. Du Sud-Africain Patrick Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. On en parle dans des minutes. Y aura-t-il des discussions directes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23? C'est une ligne rouge infranchissable, a répété à de multiples reprises le président Félix Tshisekedi. C'est pourtant une idée défendue par de nombreux acteurs qui jouent un rôle dans les tentatives d'apaisement du conflit militaire en cours. Les églises catholiques et protestantes de RDC en font l'une des clés de leur proposition de pacte pour la paix et le bien vivre ensemble. La délégation était d'ailleurs lundi à Luanda pour expliciter sa feuille de route et écouter aussi ce qu'avait à dire le président João Lourenço. Le chef de l'État angolais, qui s'est ensuite entretenu avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, je vous le disais, était hier à Luanda. Les autorités angolaises, juste après cette rencontre, ont affirmé, Pauline Azidi, que M23 et Kinshasa vont se parler.
C'est en tête-à-tête que les présidents Tshisekedi et Lourenço se sont entretenus. Pas de déclaration à la sortie, mais cette annonce choque de la présidence angolaise sur les réseaux sociaux qui explique qu'elle va, je cite, « établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent à des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère. » Du côté de Kinshasa, on assure prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre œuvre de cette démarche angolaise, précise Tina Salama, la porte-parole de la présidence, qui rappelle qu'un cadre existe dans le processus de discussion dit de Nairobi. Depuis le début du conflit, la RDC a fait de ces discussions directes une ligne rouge. Le président Tshisekedi l'a rappelé plusieurs fois, estimant que toute négociation devait se faire avec le Rwanda. Le maître du M23 a encore affirmé le chef de l'État congolais fin février. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et cette annonce angolaise s'inscrit dans un contexte où on attend deux événements importants. D'abord ce sommet de la région d'Afrique australe, la SADC, consacrée à la RDC et qui est prévue demain jeudi. Et puis le 4 avril, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui se réunira de nouveau sur la situation dans l'est de la RDC. Autre événement multilatéral demain jeudi à Cape Town, en Afrique du Sud, le sommet Afrique-Union européenne. Il y sera probablement question du conflit en cours dans l'est de la RDC et de ses sanctions individuelles ciblées potentiellement contre le Rwanda. Une entité et 9 personnalités seraient visées, sauf que pour le moment, les 27 pays de l'Union européenne ne se sont toujours pas mis d'accord. Pour plaider la cause de son pays, le ministre rwandais des Affaires étrangères était en tout cas ces jours-ci à Bruxelles, Olivier Ndungirehe, qui a vu la chef de la diplomatie européenne et le commissaire chargé des partenariats internationaux. Il a affirmé que son pays n'avait pas déclenché la guerre et qu'il œuvrait pour la paix. Ses interlocuteurs européens lui ont répondu que le Rwanda devait respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Radio France Internationale, 7h34 à Port-Louis. Le Premier ministre indien effectue depuis hier sa deuxième visite sur l'île de l'océan Indien. Ce déplacement coïncide avec les célébrations du 57e anniversaire de l'indépendance mauricienne. Un déplacement officiel de Narendra Modi qui intervient dans un contexte de renforcement des relations bilatérales et d'enjeux géopolitiques majeurs dans la sous-région. Plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité maritime et de la recherche océanographique devraient être signés avec le gouvernement mauricien arrivé au pouvoir il y a maintenant 5 mois. La correspondance sur place d'Abdoulaye Rali.
Indépendamment des changements politiques, l'Inde a toujours maintenu des liens étroits avec Maurice, parce que l'île est bien plus qu'un partenaire pour New Delhi. C'est une mini-India, selon les propres mots de Narendra Modi. L'île constitue en effet une pièce essentielle dans la stratégie régionale indienne. Pour cette visite, le Premier ministre indien vient notamment consolider l'accord sur Agalega, une île lointaine de la République mauricienne où l'Inde a installé installer un poste d'observation militaire. Ce partenariat Port-Louis-New Delhi permet à l'Inde d'étendre sa surveillance maritime dans cette zone stratégique du sud-ouest de l'océan Indien. Il s'inscrit dans le cadre de son projet SAGAR, ce programme de sécurité maritime régionale qui a pour objectif principal de contrer l'influence de la Chine dans l'océan Indien. Dans cette optique géopolitique, l'Inde s'aligne avec les États-Unis. Cette alliance s'est d'ailleurs manifestée lors des négociations avec Londres et Washington pour la rétrocession des Chagos à Maurice, processus auquel participe New Delhi. Abdullah Erali, Port-Louis et RFI.
Et la visite du Premier ministre indien se termine aujourd'hui. Des militaires ougandais ont-ils été envoyés à Djouba? C'est ce que dit le chef des forces armées ougandaises, mais le gouvernement du président Salva Kiir dément. Ce flou pose en tout cas la question des véritables intentions de Kampala. Christina Okello.
Le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Kulaiyeje, reste évasif sur ce déploiement. Interrogé sur les démentis du gouvernement sud-soudanais, il esquive la question.
Est-ce que je suis censé commencer à rivaliser avec le gouvernement du Soudan du Sud ?
Félix Kulaiyeje refuse ensuite de préciser si les troupes ougandaises ont été envoyées ailleurs qu'à Djouba.
Je ne sais pas et je n'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet.
Ce flou alimente les interrogations sur les véritables motivations de Kampala. Officiellement, l'armée ougandaise affirme être intervenue pour stabiliser la situation à Djouba et protéger ses ressortissants. Mais pour les observateurs, cette annonce met les autorités sud-soudanaises dans l'embarras, notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs minimisé la situation, affirmant dans la presse locale qu'il n'y a aucune tension à Djouba. Pourtant, hier matin, Moïse Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, affirmait que toute action contre Salva Kiir serait perçue comme une déclaration de guerre par l'Ouganda. Kampala n'en est pas à sa première intervention au Soudan du Sud. Déjà en 2013 et 2016, l'armée ougandaise était intervenue pour soutenir Salva Kiir face à Riek Machar. Cette nouvelle implication, jugée risquée par des experts, pourrait aggraver la crise actuelle, alors que l'ONU redoute un effondrement de l'accord de paix de 2018, conclu après 5 ans de guerre civile et près de 400 000 morts.
L'ONU qui redoute également la famine au Soudan voisin, englué dans une guerre entre l'armée et les paramilitaires FSR depuis près de 2 ans. Les inquiétudes montent sur le financement de l'aide aux populations avec l'annonce américaine du début de semaine. 83% des programmes de développement de l'agence gouvernementale USAID coupés. Une économie de quelques 50 milliards de dollars, dit le département américain d'État. Alors que dans le même temps, les Nations Unies appellent une nouvelle fois les pays donateurs à financer l'effort humanitaire au Soudan. Houda Ibrahim.
Alors que les principaux donateurs réduisent le fonds alloué à la crise soudanaise, les Nations Unies ont averti lundi que sans un financement urgent, la famine risque de s'étendre dans les mois à venir au Soudan. Selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU, les coupes brutales et les suspensions soudaines de financement mettront fin à l'aide humanitaire vitale pour des millions de femmes, d'enfants et d'autres groupes vulnérables à travers le Soudan. Elle lance un cri d'alarme et appelle tous les donateurs à réviser leur politique de décision en ce qui concerne les réductions de dons pour le Soudan. 30,4 millions de Soudanais, soit plus de 64%, ont besoin d'aide humanitaire alors que près de 5 millions de femmes et d'enfants souffrent d'une malnutrition aiguë. Ces réductions de financement portent, selon la responsable onusienne, un coût catastrophique à l'aide humanitaire au Soudan cette année, alors que les besoins sont plus importants. Des 4,2 milliards nécessaires pour fournir l'aide humanitaire au Soudan, 6,3% seulement de la somme ont été alloués.
Au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane porte plainte contre le président Daniel Chapo pour incitation à la violence. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 9 octobre a déposé sa plainte hier alors qu'il était lui-même convoqué par le procureur général, puisque son nom apparaît dans 8 affaires ouvertes suite à la contestation post-électorale. Dans sa plainte que RFI a pu consulter, Venancio Mondlane accuse la justice mozambicaine d'être partisane. Gaël Alex.
C'est un discours prononcé par Daniel Chapo le 24 février dans le Cabo Delgado qui fait l'objet de la plainte de Venancio Mondlane. Le président mozambicain avait alors comparé la répression de la contestation post-électorale à la lutte contre le terrorisme dans cette région du nord du pays. Comme les jeunes qui versent leur sang pour défendre l'intégrité territoriale du pays, nous verserons le sang pour défendre la patrie contre les manifestations, avait déclaré déclaré Daniel Chapou. Un discours que Venancio Mondlane qualifie de guerrier et qui empêche tout dialogue constructif, peut-on lire dans la plainte. En outre, l'opposant affirme avoir été l'objet d'un attentat le 5 mars lors d'une manifestation. Selon la plateforme de la société civile Décide, son véhicule a en effet essuyé 6 tirs à balles réelles lors de la répression de cette marche. Venancio Mondlane a été lui-même entendu par le procureur général hier. Il fait l'objet de plusieurs plaintes allant de la destruction de biens publics à la subversion ou encore aux troubles à l'ordre public. Devant le bureau du procureur, un rassemblement de ses militants a été violemment dispersé par la police à renfort de gaz lacrymogène. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et concernant les 8 affaires ouvertes contre Venancio Mondlane, le procureur général du Mozambique a décidé de limiter les déplacements de l'opposant. Il ne peut plus quitter sa résidence plus de 5 jours et doit tenir le ministère public informé de ses déplacements, Venancio Mondlane, qui promet toutefois que cela n'affectera pas ses activités politiques. Aux Comores, la police nationale mène une vaste opération de contrôle d'identité. Opération pour inciter les citoyens à porter une pièce d'identité sur eux et donc renforcer la sécurité. Les autorités présentent cette opération comme une simple sensibilisation, mais elle pourrait mener à des interpellations pour les Comoriens récalcitrants, à des expulsions aussi pour les étrangers en situation irrégulière. Son cadre légal et ses modalités d'application interrogent. RFI Moroni, Abdallah Mzembaba.
Selon la police, cette opération vise avant tout à sensibiliser la population à l'importance de toujours avoir une pièce d'identité sur soi, notamment pour des raisons sécuritaires, mais pas que. Yakout Abdourahmane, commissaire adjoint au commissariat central de Moroni.
Nous avons vu et vécu des cas qui nous ont interpellés. Il y a eu des cas de couverts de macabre, il y a eu des cas d'accidents de circulation mortels où il était difficile d'identifier ces personnes-là. Donc nous pensons qu'avec une pièce d'identité, cela nous paraîtra encore plus judicieux.
Toutefois, la possibilité d'être interpellé en cas de non-présentation d'une carte d'identité soulève des critiques. Hissan, une habitante de Moroni, estime qu'il faut davantage de communication avant de sévir.
La procédure est normale, mais je crois qu'il y a des personnes qui n'étaient même pas informées. Ils se réveillent le matin, ils vont marcher, ils se font contrôler.
Pour l'heure, aucune arrestation n'est prévue puisque la mission est censée être pédagogique et de sensibilisation. Mais plus tard, ces contrôles pourraient se durcir avec des patrouilles renforcées, notamment dans certaines zones jugées sensibles. Le juriste Abdou El Wahab Msabakar souligne que des contrôles systématiques pourraient porter atteinte à la liberté de circuler. Il ajoute que circuler sans pièce d'identité n'est pas une infraction. Abdallah Mzembaba Moroni.
On termine avec les sports, on connaît les 4 premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Européenne des Champions de Foot. Le PSG qui a éliminé Liverpool au tir au but après sa victoire 1-0 hier soir au match retour. Le Barcelone a battu le Benfica Lisbonne 3-1. Le Bayern Munich a disposé du Bayer Leverkusen 2-0 et l'Inter Milan du Feyenoord Rotterdam 2-1 ce soir. On suivra Lille Dortmund à 17h45, temps universel, suivi d'Atlético Madrid Real Madrid à 20h TU. À la même heure, Arsenal PSV Eindhoven et Aston Villa Bruges. Ce mercredi a également lieu l'Assemblée Générale élective de la Confédération Africaine de Football, la CAF, qui renouvelle une partie de ses instances dirigeantes. On attend l'entrée de Samuel Eto'o au comité exécutif et la réélection dans un fauteuil du Sud-Africain Patrick Motsepe à la tête du secrétariat général. Olivier Pron.
En mars 2021, à Rabat, Patrice Motsepe devient président de la CAF à la surprise générale, ou presque. Jusque-là, le premier milliardaire noir d'Afrique du Sud, 9e fortune du continent aujourd'hui, n'était connu que des initiés. En tant que président du club de Pretoria, les Mamelodi Sundowns, propulsé sur le devant de la scène footballistique à l'époque pour, en homme d'affaires qu'il est, remplir les caisses d'une CAF aux abois financièrement. 4 ans plus tard, c'est en partie chose faite. Le succès notamment médiatique, comme jamais, de la dernière CAN en Côte d'Ivoire est passé par là. La plus belle des Coupes d'Afrique des Nations, comme on l'appelle, jusqu'à la prochaine, a été diffusée partout dans le monde. Succès aussi la création d'un championnat scolaire et d'une Super League fermée en 2023 qui promettait beaucoup aux clubs participants. Problème, elle n'a connu qu'une seule édition. Pour le reste, il faut nuancer vraiment ce bilan de Patrice Motsepe a rappelé les reports incessants des différents CHAN, les difficultés pour trouver un pays hôte à la CAN féminine. Enfin, les dates de la CAN, compétition reine, sans cesse chamboulées au gré des désidérata de l'UEFA et surtout de la FIFA, une instance mondiale dont certains, au sein même de la CAF à présent, dénoncent la mainmise sur les décisions importantes et la gouvernance.
Et cette assemblée générale élective de la CAF se tient au Caire, en Égypte.
Afrique Matin sur RFI.
Au menu des minutes qui suivent sur la radio du Monde, des centaines de millions de dollars promis pour les caisses de l'État. De quoi transformer un pays, mais qu'en sera-t-il concrètement? On se pose la question ce matin à propos du projet de mine de fer de Simandou en Guinée. On le met notamment en parallèle avec l'exploitation de la bauxite dans le pays depuis maintenant une quinzaine d'années. Un gazoduc venant des États-Unis, pourquoi pas, disent le Japon et la Corée du Sud, mais Washington doit modérer ses ardeurs sur les droits de douane. Et puis, si on reportait d'un an les élections municipales, pas la Mayotte, une idée sur laquelle reviennent nos amis du réseau La Première dans l'océan Indien dans 10 minutes. Et d'abord à 4h45 heure de Paris, le grand format de la rédaction Afrique sur le manque de moyens humains et techniques des pompiers de Centrafrique. Ces dernières semaines, les critiques se sont faites plus vives contre les soldats du feu, que ce soit contre un incendie ou face à une catastrophe naturelle, les habitants de Bangui se sentent souvent bien seuls. Rolf-Stef Domialeux a visité deux maisons récemment détruites par les flammes dans le nord de la capitale.
L'état de la maison démontre l'intensité des flammes. Lits, chaises, armoires, vêtements, appareils ménagers, tout a été entièrement détruit et parfois transformé en charbon. Éléonore est l'une des victimes.
C'est hier pendant la nuit que le feu s'est déclaré dans la maison. On n'en connaît pas encore l'origine. On a essayé de combattre l'incendie, mais on n'a jamais réussi à l'éteindre.
Tout en pleurs, elle fouille dans les décombres dans l'espoir de retrouver quelques objets importants ayant résisté aux flammes.
Nous avons tout perdu, tous nos documents, nos diplômes, les actes de naissance, notre argent. Ma fille a été asphyxiée dans l'incendie. Elle a été conduite à l'hôpital.
Les flammes ont également consumé chaque recoin de la bâtisse de son voisin Paul, laissant derrière elle des cendres et des ruines fumantes.
Les flammes étaient indescriptibles. Il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels sont importants. J'ai tenté en vain de contacter les unités de secours. Avec l'aide des voisins, nous avons utilisé du sable et de l'eau pour essayer d'éteindre le feu.
De passage dans le secteur, Enoch se gratte les sourcils et se souvient de ce qui était arrivé à sa fille. Âgée de 8 ans, elle était accidentellement tombée dans un puits d'environ 5 mètres.
Les conditions de travail des secouristes sont à revoir. Après 1000 tentatives, nous avons eu en ligne une unité de la protection civile qui ne pouvait pas intervenir. Ils ont évoqué un manque de carburant et des véhicules en panne. Ma fille a finalement perdu la vie. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités.
Pour comprendre ces dysfonctionnements, direction la direction de la protection civile. C'est l'heure du grand rassemblement. Dernier préparatif pour ces agents de regagner leur poste. Thomas Dimassi est le directeur de la protection civile.
Le gouvernement vient d'intégrer 150 sapeurs-pompiers civils qui seront bientôt déployés dans les 20 préfectures. Le numéro d'urgence qui est le 10-10, le numéro 118 est aussi opérationnel. Il y a aussi le numéro 12-12. Donc sur tous ces numéros-là, on peut nous contacter. Mais pour le déployer, il faudrait que les éléments soient habillés, soient équipés. La principale difficulté, c'est les moyens. J'en appelle aux partenaires techniques et financier de la RCA, de nous appuyer.
En attendant de trouver une solution définitive dans certains quartiers de la capitale, les habitants s'organisent et se défendent avec les moyens de bord. Rolf-Estève Domialeu, Bangui, RFI.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
Le dossier Afrique Éco en Guinée dans une minute. Mais d'abord, ce qui fait la une de l'actualité internationale de ce mercredi 12 mars, l'Ukraine accepte une proposition des États-Unis, une proposition pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Proposition acceptée donc à l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne qui s'est tenue en Arabie Saoudite. On en parle dans le prochain journal dans 12 minutes. En échange de ce cessez-le-feu, Washington DC lève immédiatement la suspension de l'aide militaire à Kiev. La balle est désormais dans le camp des Russes, indique le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium australien, ils doivent entrer en vigueur aujourd'hui. Ils sont totalement injustifiés, réagit le Premier ministre australien. Canberra ne prendra toutefois pas de mesures de rétorsion, répète-t-il. La politique de droits de douane de Donald Trump, qui déconcerte les marchés. Hier, le président américain a menacé de doubler à 50% les tarifs douaniers prévus sur l'acier et l'aluminium canadien. avant d'y renoncer finalement quelques heures plus tard après la chute de lundi. Wall Street a donc à nouveau reculé hier, idem pour les places boursières européennes. Rodrigo Duterte, arrêté à Manille en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il est en voie de transfert vers La Haye, le siège de la CPI. Il fait escale en ce moment à Dubaï. L'ancien président des Philippines est poursuivi pour sa campagne anti-drogue sanglante. 6000 morts, disent les données officielles, entre 12 000 et 30 000 morts selon les procureurs de la CPI. Afrique Économie, pour mieux comprendre ce projet phare de la Guinée, le projet Simandou, du nom de ces montagnes du sud-est du pays ouest africain, qui regorge de minerais de fer. D'ici à la fin de l'année, les autorités de transition affirment que le fer va sortir de terre. Un chemin de fer, un port pour charger le minerai et l'exporter est en construction. On l'a entendu ces deux derniers jours sur RFI. Cela pose des soucis en termes d'indemnisation des populations. Mais plus globalement, quelle retombée attendre de Simandou? Retombée locale pour les villages proches de la mine? Retombée nationale aussi pour les finances publiques? Alexis Bédu, notre envoyé spécial en Guinée, nous apporte des éléments de réponse.
Il nous emmène dans l'arrière-boutique. Ce commerçant de Conakry préfère être discret, surtout pour parler du Simandou, projet central pour la junte au pouvoir. La soixantaine, ce Guinéen a l'impression d'assister avec la mine de fer au même scénario qu'avec l'extraction de bauxite dans le nord du pays, à Boké, dont l'essor s'est accéléré il y a une quinzaine d'années.
Il y a combien de sociétés minières à Boké? Il y a presque une vingtaine. Allez-y voir comment vit la population. Ils n'ont même pas d'eau propre, ni de maison, ni de route. Que ça a rapporté? Mais que c'est Simandou? C'est du vent, c'est du vent.
Impossible de savoir combien rapportera réellement le projet Simandou puisque les conventions minières signées n'ont pas été publiées. Les autorités tablent sur des rentrées fiscales entre 600 et 700 millions de dollars par an. Cela va transformer la Guinée selon l'économiste Mohamed Camara qui reste toutefois attentif aux fausses promesses et à la gouvernance du projet.
Il faut avoir une capacité managériale très forte pour ne pas que ce projet souffre des mêmes maux que les projets miniers en cours de développement en Guinée. Il faut tirer les leçons des échecs, des différentes conventions, des mines, parce qu'on a compté sur ça depuis 60 ans. Voilà où nous en sommes. Et on rectifie ça dans le Simandou, pour que Simandou tienne sa promesse.
La question de la transformation du minerai en Guinée est centrale. La bauxite n'a toujours pas sa raffinerie. Alors pour le Simandou, beaucoup réclament une aciérie. C'est prévu, assure le ministre du Plan, Ismaël Nabé.
Le premier pilier, c'est l'industrie. C'est pour la transformation, pas seulement les produits agricoles, mais des produits miniers. C'est ça l'aciérie. Au niveau de la bauxite, au niveau du fer, c'est la transformation industrielle. C'est ça l'objectif du chef de l'État.
Il faut accélérer sur la transformation, estime Agui Bouli. Il est directeur général d'IBS, une entreprise sous-traitante du minier Rio Tinto Simfer sur le projet Simandou.
Il a été clair et aux partenaires et aux différents investisseurs dans le secteur minier que l'investissement dans la transformation locale sera clé. C'est pourquoi dans le projet Simandou, il y a pour la première fois une aciérie et on a aujourd'hui un gros push du côté du gouvernement pour permettre aux sociétés dans la bauxite d'aller vers la première étape de la chaîne de valeur qui est la production d'alumine.
L'immense majorité du fer de Simandou sera toutefois exportée vers la Chine qui, via son entreprise Baowu Steel, a investi 6 milliards de dollars dans le projet et qui se remboursera en matières premières. Alexis Bédu, de retour de Conakry, RFI.
Et l'ensemble du dossier de RFI sur Simandou, signé Alexis Bédu, est à réécouter, à lire aussi sur notre site RFI.fr et sur notre appli de podcast RFI Pure Radio. Et si un futur gazoduc reliait l'Alaska et les alliés asiatiques des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud? C'est l'une des nombreuses annonces du président américain. Les deux États seraient intéressés, affirme Donald Trump. Tokyo et Séoul veulent toutefois engager des discussions sur les droits de douane avec Washington d'ici. Agnieszka Kumor nous explique tout cela dans la chronique quotidienne des matières premières.
L'idée de construire un gazoduc en Alaska existe depuis la découverte en 1967 de vastes réserves de gaz et de pétrole sur la côte nord de ce territoire américain d'une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés. Un premier projet des années 1970 avait été vite abandonné faute de financement. Un autre, soutenu par l'ancienne gouverneure républicaine Sarah Palin dans les années 2000, a connu le même sort. Cette fois, Donald Trump persiste et signe. L'immense projet Alaska LNG verra le jour. Ce projet consiste à acheminer du gaz naturel du nord de l'Alaska sur près de 1300 km vers le sud de l'État. C'est là-bas, près de la ville d'Anchorage, que le gaz serait transformé dans une usine de liquéfaction et transporté par navire vers l'Asie de l'Est, son principal débouché. Porté par le groupe américain Glenfarne, le gazoduc ne devrait pas être opérationnel avant 2030 au mieux. Sa production de 20 millions de tonnes de GNL représenterait le quart des exportations annuelles des États-Unis, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Le coût estimé du projet, 44 milliards de dollars. Sachant que le gazoduc devra être entièrement enterré, il pourrait coûter beaucoup plus. S'il est vrai que les Philippines et Taïwan ont fait part de leur intérêt, pour Séoul, les discussions sont en cours. Quant au premier ministre japonais, Shigeru Ishiba semble prendre son temps. Tokyo lance un appel pour que les États-Unis reviennent à la table des négociations sur les droits de douane. Condition à peine voilée pour que le projet dans le nord de l'Alaska puisse un jour bénéficier du soutien du Japon.
Merci Agnieszka Kumor du service économie d'RFI. À 5 minutes du journal international, on fait un petit tour par l'info de l'océan Indien. Une dizaine de jours après le passage du cyclone Garance sur l'île de la Réunion, de nombreuses entreprises n'ont toujours pas repris leur activité. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Au mieux, il faut nettoyer. Au pire, il faut reconstruire. Mais le résultat reste le même, pour l'instant en tout cas, une grosse déprime et un personnel mis en chômage partiel. Écoutez ce reportage dans un hôtel du front de mer de Saint-Denis. Reportage signé Ajaya Waro.
1,80 m d'eau déversée en moins de 5 minutes. Garance n'a pas épargné le parking de l'hôtel Radisson au Barachois. Et voilà plusieurs jours que le personnel tente de venir à bout des dégâts causés par le cyclone. Sidonie est la gouvernante générale de l'hôtel.
Tous nos réserves pour les produits d'accueil, produits d'entretien, ma lingerie, tout ce qui est lit supplémentaire, lit d'appoint, lit bébé, tout est noyé. C'est désolant en fait de voir le travail qu'on a fait anéanti.
Les chambres ont été plutôt épargnées, mais les 29 véhicules stationnés dans le parking sont bons pour la casse et tout ce qui est nécessaire pour faire tourner l'hôtel est hors d'usage. Dharma Kulian, directeur du Radisson.
Les locaux techniques, le local électrique, le local informatique, toute l'informatique de l'hôtel est HS, local ballon d'eau chaude, local de piscine, la cave à vin, la blanchisserie. C'est vraiment toute une image de désolation.
Impossible pour lui de rouvrir les portes de l'établissement pour le moment. Un coup de massue important à son chiffre d'affaires qui était pourtant au mieux jusqu'ici.
On était dans une dynamique plus que positive depuis le mois de septembre 2024. Janvier et février 2025, on est plutôt à une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 25%. Et le mois de mars allait être du même tremplin. Et là, c'est arrêt net.
Dharma Kulian estime les pertes à près d'un million d'euros et espère pouvoir accueillir de nouveau du public d'ici le 1er avril.
Reporté d'un an, de 2026 à 2027, les prochaines élections municipales à Mayotte, l'idée ne vient pas des édiles du département 101, mais de l'Association des maires de France. Alors, comme souvent, les intentions semblent bonnes, permettre aux élus de souffler un peu après plusieurs années qu'on va qualifier de compliquées, mais la réalisation concrète, elle, risque d'être plus ardue à mettre en œuvre. Explication et reportage, Jamila Swadiki.
Chido a laissé derrière lui un pays dévasté, aucun territoire n'est épargné, mais avant cela, Mayotte a été secouée par différentes crises et mouvements sociaux, d'où l'idée de l'Association des maires de France à leurs homologues de Mayotte de reporter les municipales à 2027. Laïtidine Ben Saïd, maire de Mtsamboro, est secrétaire général de l'Association des maires de Mayotte.
C'est une proposition émanant de l'Association des maires de France suite aux différentes crises qui sévissent sur Mayotte, crise Covid, crise séisme, crise migratoire, crise de l'eau, crise cyclonique. Cette mandature a connu beaucoup plus de crises que d'habitude.
Et Chido n'a fait qu'accentuer les maux dont souffre Mayotte. La reconstruction du territoire risque de reléguer certains projets au second plan. Mais pour autant, les maires ne semblent pas trop enclins à accepter la proposition des maires de France pour le report des élections en 2027. Laïtidine Ben Saïd.
Nous, on n'a entamé aucune procédure officielle à ce sujet. On a fait un retour par rapport à leurs propositions. Après, le reste, on n'est pas opposé, on n'est pas fan, c'est de décider. Nous, on n'a rien déposé d'officiel.
Bon nombre d'entre eux pensent à se représenter pour le renouvellement de leur mandat l'année prochaine, à l'instar du maire de Mtsamburo lui-même, qui a fait sa déclaration de candidature sur nos antennes la semaine dernière.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée également, Benoît Ferrand. À la une de la prochaine édition africaine sur RFI dans une demi-heure. Le retour notamment sur cette visite à Bruxelles auprès de l'Union européenne du chef de la diplomatie du Rwanda. Dans 30 secondes, Martin Guez pour l'info internationale.
Ce jeudi, Couleur tropicale fête ses 30 ans.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, nous avons 30 ans, 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI, 2 heures de fête avec de nombreux invités, beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur tropicale à 30 ans, rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel, 21h10 en France, toi-même tu sais.